La traversée. La traversée de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. Une émission sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954, avec aujourd'hui Michel Régis. Michel Régis, bonjour.
Bonjour.
Nous allons faire un petit retour en arrière, puisque vous êtes pieds noirs d'origine et que vous avez vécu quasiment en Algérie jusqu'en 1974.
Oui.
Donc, une longue période qui a succédé à l'indépendance. Je voudrais d'abord vous interroger sur vos origines pieds noirs et savoir un petit peu où vous viviez en Algérie, à quel endroit exactement, et ce que faisaient vos parents. Donc, vous êtes né en Algérie.
Oui, je suis née à Alger, d'une vieille famille pieds-noirs qui était à Alger. Depuis, pas tout à fait la conquête de l'Algérie, mais pas loin. Et donc, on était 5 générations de pieds-noirs à peu près à l'indépendance d'Algérie. Voilà. Et ma famille maternelle, elle, venait de... C'était des Italiens qui venaient de Tunisie, mais qui étaient à Alger également.
Ça remonte très loin, donc.
Ça remonte très loin, oui, oui. On est, oui, vieille souche pieds-noirs, hein.
Et vos parents s'établissent à Alger ou se retrouvent ensuite un peu dans le fond de l'Algérie, dans
Alors,
les provinces?
Quand j'étais petite, mon père, pour les besoins de son travail, est parti s'installer, enfin nous sommes partis nous installer, près de la frontière marocaine. C'était à 35 km de Tlemcen, dans ce qu'on appelle un bled. Et j'ai donc vécu là de 1949 à 62, 63, hein, voilà. Et après, on est venu habiter près d'Oran.
Qu'est-ce que faisait votre père?
Alors, mon père, c'est difficile de vous dire ce que faisait mon père. Il permettait, c'est pas un métier ça, hein, il permettait aux gens de cette région d'Algérie de boire de l'eau potable, puisque quand mon père est arrivé dans cette région d'Algérie, les gens buvaient de l'eau saumâtre. Donc, il était pourvoyeur du liquide nourricier, celui sans lequel on meurt. C'est comme ça que je le ressens en tant que sa fille.
Oui.
Voilà, il était dans l'épuration, la stérilisation,
le service des eaux,
voilà,
en fait, qui
voilà.
se mettait en place. Oui. Et il s'occupait, donc, il y avait une société.
Il était directeur d'une société dont la maison mère était à Paris et qui appartenait à quelqu'un qui n'était pas du tout pied noir, un Français de France, voilà, mais qui avait investi en Algérie. Et c'est mon père qui a mis ça en œuvre. Voilà.
Alors, pour aller un peu vite,
oui.
Qu'est-ce qui se passe en 62, le jour de l'indépendance? Vous êtes une jeune adolescente.
Ben oui. Alors, moi, j'ai des souvenirs un petit peu confus, mais je peux vous en raconter un en particulier, là, qui est juste au moment de l'indépendance, dans notre bled. Hein, c'est un bled perdu, là-haut. Hein, dans notre bled, l'armée algérienne, l'ALN, ce qu'on appelait, nous, les Félagas, hein, voilà, est arrivée en camion. Ils avaient leurs fusils mitrailleurs. Ils nous ont encerclés. Mon père n'était pas là. Il était en déplacement d'affaires à Alger. Il y avait ma mère et les 3 enfants, et puis le bras droit de mon père, qui était un Algérien. Donc ça, c'est vraiment à l'indépendance, hein. On a été encerclés. On a été tenus en joue au bout des fusils mitrailleurs. Et j'avais 15 ans et demi, hein, voilà. Et ma mère disait « rentrez les enfants » parce qu'elle avait très peur. Et nous, on disait « jamais de la vie, on ne va pas montrer qu'on a peur, on est resté là ». Et donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Ma sœur était gamine, elle avait 10 ans, ma sœur était petite. Hein. C'est quelque chose de très fort et cette image, je l'ai toujours. Bon, ça s'est bien passé, ils sont venus voir si on avait des armes. Maman a dit « non, il n'y a plus d'armes, on les a rendues depuis longtemps, etc. » Bon, en fait, il y avait une caisse de grenades dans le haut d'un placard, elle se les rappelait après. Donc mon frère et le bras droit de mon père, qui était un Algérien, sont allés juste après qu'ils soient partis, ces gens-là, sont allés enterrer la caisse de grenades au fond du parc et elle doit y être toujours aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, un souvenir très prégnant de l'indépendance.
Votre famille était très implantée dans cet endroit. L'adjoint de votre père, votre famille avait des liens assez forts avec lui.
Quand mon père est venu mettre en œuvre faire ce travail-là, hein, avec un financement de quelqu'un qui était français de France, il a embauché du monde. Et il a embauché en 1949 un jeune homme qui s'appelait, que nous, on a toujours appelé Monsieur Taïeb. Hein, Monsieur Taïeb, c'était son prénom en fait, Taïeb. Hein, mais nous, nous l'appelions Monsieur Taïeb. Et papa l'a embauché. Il avait peut-être 24 ans, 23 ans quand papa l'a embauché. Et ils se sont plus quittés de toute cette vie en Algérie. Hein, le pied noir et l'arabe. Et moi, il m'a vu grandir, ce monsieur Taïeb. Oui, et ça a duré. Et c'est lui qui a pris la suite de mon père plus tard, quand mon père a quitté l'Algérie, etc. Voilà. Donc oui, il a tout le temps été là. Hein,
Mais durant cette période entre 62 et 74, date à laquelle vos parents quittent l'Algérie, vous êtes étudiante en France, vous revenez très souvent, fréquemment, en Algérie. Comment ça se passe? La société est nationalisée
Non, la société a été nationalisée en 1974, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ça, je pense que ça doit être... Je ne connais pas toute l'historique des nationalisations en Algérie. Ça, je pense que c'est très exceptionnel. C'était un métier qui était extrêmement pointu et les Algériens ne pouvaient pas prendre ça en charge pour l'instant. Donc en 1962, ils n'ont pas touché à cette société. Ils ont dit, Monsieur Régis, vous continuez à vous occuper de tout ça. Et mon père s'en est occupé jusqu'en 1974, date à laquelle ça a été nationalisé. Là, c'est ce monsieur Taïeb qui a pris la suite. Et mes parents ont quitté l'Algérie. Et voilà, ils sont venus dans le midi où nous étions, nous, hein, du côté de Marseille. Voilà, et mon père est mort 3 ans après, donc parce qu'il était malade.
Et comment c'est vécu? Comment vivez-vous cette présence continue, donc, en Algérie, alors que la plupart des pieds noirs sont rentrés en France?
Mais... Pour nous, c'était... Alors, je vais dire quelque chose. Je vais dire, c'était notre pays. Et je ne le dis pas dans une revendication politique du tout. Hein. Je le dis, je parle avec affectivement, là. C'était notre pays. On est nés là. Nos parents sont nés là. Tout le monde est né là. Et donc, on y restait. Ça nous paraissait normal de rester là. Et puis, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. On y restait jusqu'au bac, donc mon frère et moi, puis bon, ma sœur était plus jeune. Bon, après, on est parti faire nos études en France, mais là, c'était seulement en 67 qu'on est venu à Marseille faire nos études supérieures. Mais on rentrait quand même à Noël, on rentrait l'été, etc. Et bon, ben, quand on y est, après 62, bon, quand on fait nos études secondaires, les choses se passaient tout à fait naturellement. C'était une continuité. Enfin, moi, alors, peut-être que c'est un point de vue... de toute façon, c'est un point de vue personnel, hein, complètement. Donc, il y a d'autres pays noirs qui vous auraient dit des choses peut-être tout à fait différentes. Mais pour moi, c'est une continuité. Puis, j'ai des amis algériens et des amis pieds noirs. Et ça a été... Et si je vous disais que ça a été une période dont je garde un souvenir, un très beau souvenir, ouais. Oui, je garde de cette période-là un très beau souvenir. C'est une période de bonheur. Pourtant, l'Algérie était plus française. Alors, il y a des petites anecdotes. Moi, je portais des petites robes courtes, mini-robes. C'était la mode des mini.
Oui.
On savait qu'un jour, dans les rues d'Oran, j'avais une ravissante petite robe courte. Bon, il y a eu un mec qui a eu un geste déplacé. Je l'ai mal pris. Il a sorti un couteau. Mais bon... Voilà, des choses comme ça. J'étais française, c'était un jeune Algérien. Bon, je me la suis bouclée à ce moment-là. Hein. Je ne l'ai pas ramenée, je me suis dit, je vais prendre un coup de couteau. Mais vous savez, ça peut arriver n'importe où, ça aussi. Hein.
Mais en France, vous étiez regardée d'une étrange façon, parce que les gens étaient tout de même étonnés.
Mais en France, nous, les pieds noirs, quand ils sont rentrés, ils étaient très mal vus. Moi, j'ai entendu des horreurs, mon frère a entendu des horreurs. Quand on est rentré en 62, on est revenu un an, juste parce que les lycées en Algérie ne fonctionnaient pas. Et puis, au bout d'un an, et pour mon frère, au bout de 3 mois, on est retourné en Algérie, on a continué nos études là-bas. Donc, déjà, les pieds noirs étaient très mal vus. Vous savez ça, que les pieds noirs ont été très mal accueillis. Il n'y a pas que du racisme anti-arabe. En France, il y avait du racisme anti-pieds noirs. Ce n'est pas du racisme, hein, mais enfin, les pieds noirs n'étaient pas bien vus, de toute façon. Hein. Donc non, on n'a pas été bien accueillis du tout, de toute façon. Donc quand on est reparti très vite en Algérie, puisque les lycées se sont remis à fonctionner, et ben, on était très contents de repartir en Algérie, parce qu'au moins on était là, on était entre nous. Parce que c'est ça le grand paradoxe de cette guerre, c'est que c'est une guerre où les populations françaises et arabes ont été prises en otage pour des raisons politiques. On a été dépassés, on a été débordés, mais foncièrement, on était quand même extrêmement proches. Moi, quand je suis arrivée à Marseille la première fois, je me suis sentie tout à fait perdue. et j'ai vu des Arabes dans les rues, et ah, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, ah, tiens, quand même, là, je suis un peu chez moi, quand même. Eh oui.
Sur cet état d'esprit, on va y revenir, mais on va vous faire entendre un petit document. Une fois n'est pas coutume dans cette série radiophonique. C'est une déclaration d'Abderrahman Farès. Abderrahman Farès, au moment de l'indépendance, prend les rênes de l'exécutif provisoire. Oui. Je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, le gouvernement algérien se met en place. Et il se retrouve à la mairie d'Alger, devant Émile Gautier, qui était le maire d'Alger, qui était une personnalité, disons, ce qu'on appelait à l'époque la troisième voie. Donc, qui voulait qu'il y ait une présence française qui se maintienne en Algérie. On ne sait pas encore vraiment à ce moment-là qu'il va y avoir ce grand mouvement de départ des pieds noirs. Donc, on va entendre un petit peu cette déclaration. Alors, c'est important parce que ce jour-là, l'Algérie n'est plus française. Elle est devenue algérienne.
En cette minute solennelle où, après les textes, s'écrit dans les faits la première ligne de la nouvelle page du livre de l'histoire de mon pays, nouvelle page qu'aucune force humaine et encore moins les sanglants, déshonorants, derniers débris de la politique du dernier quart d'heure ne pourront plus tourner vers le passé. Toute ma pensée émue, va vers mes frères et sœurs qui ont terriblement souffert durant les dures épreuves écoulées, mais qui n'ont jamais désespéré parce que leur foi mystique en l'indépendance est une herbe précieuse qu'on n'arrache pas au cœur des hommes. Monsieur le Haut-Commissaire, lors de votre première allocution en terre algérienne, vous avez précisé que vous n'avez pas demandé de venir en Algérie. Moi-même, j'ai été propulsé de ma cellule de prisonnier politique en ce lieu délicieux qu'est le Rocher Noir, où se trouve désormais fixé et lié notre commun destin. Ce commun destin, notre commune mission sacrée, font que notre impérieux devoir sera d'appliquer et faire appliquer par tous, par tous les moyens, et quel qu'en soit le prix, dans les moindres détails, dans toutes leurs conséquences, les accords réalisés à Évian. Ces accords, véritables dictionnaires de réalisme politique, font honneur aux négociateurs dont je salue l'un d'eux aujourd'hui parmi nous. Négociateurs qui ont parfaitement compris que si l'indépendance est une nécessité historique, celle-ci doit nécessairement être accompagnée de tous les matériaux réels permettant la réalisation dans le concret, non par le verbe, l'indépendance politique, économique et sociale. Les radios, les journaux du monde entier sont médusés devant le calme, la discipline, la maturité du peuple algérien. Il faut que l'on sache aujourd'hui, d'une manière claire, précise, non équivoque, que cette maturité n'est pas celle de la peur ou de la résignation devant les événements sanglants qui se déroulent encore, mais au contraire, la farouche volonté de tout un peuple de respecter dans l'esprit et la lettre les accords signés par tous les dirigeants sans exception de sa révolution. Il faut que l'on sache que malgré tous les calculs machiavéliques, toutes les conceptions avouées au culte que nous connaissons bien, il n'y aura jamais de la part du peuple algérien de Saint-Barthélemy. Il faut que l'on sache enfin que l'Algérie, comme l'espèrent encore certaines forces malfaisantes, ne sera jamais un Congo. Cette inébranlable volonté, le peuple algérien la tire de la profondeur des racines de sa révolution, véritable rouleau compresseur qui a définitivement balayé toutes les structures vétustes ou artificielles d'un passé à jamais révolu. L'Algérie nouvelle et fraternelle que nous voulons bâtir, nous en avons aujourd'hui, elle sera la même demain, la préfiguration vivante dans l'exécutif provisoire que j'ai l'honneur et la fierté de présider. Les membres de cet exécutif, dès leur premier contact, ont parfaitement compris le sens, les risques et aussi la noblesse de leur mission. Leur unique ambition et d'être digne de celle-ci en préparant en commun les solides fondations de l'État algérien de demain. Les membres de cet exécutif démontreront dans les jours qui vont suivre, par des actes concrets et résolus, aux Algériens, à tous les Algériens sans exception, particulièrement à nos compatriotes européens israélites qui sont, qu'ils le veuillent ou non, condamnés à vivre avec nous parce que la terre algérienne, notre commune patrie si généreuse, sera pour tous le tombeau de nos aïeux, le nid de nos amours. Que l'avenir de tous nos enfants, de tous les enfants de cette Algérie nouvelle que nous voulons bâtir, se réalisera non par un mariage d'intérêts, de calculs sordides ou de raisons, mais au contraire par un vrai, un véritable mariage d'amour.
Je connaissais pas ça.
Oui, donc c'était pour Abderrahman Farès, l'Algérie était un nid d'amour. Mmh. Et non pas un mariage d'intérêt entre la France et l'Algérie, mais donc un mariage d'amour. Vous y avez cru aussi à ce moment-là?
Au mariage d'amour?
Oui.
Oui, à ce moment-là, j'y croyais certainement parce que j'étais très jeune. Après, j'ai compris que les mariages d'amour, ça ne réussissait pas toujours. Et que l'amour n'était pas suffisant. L'amour n'était pas suffisant. J'ai entendu des choses, la patte Saint-Barthélemy, etc. Et pourtant, il y a eu. Et pourtant, il y a eu.
Notamment à Oran.
Oui, oui, oui. Oui.
Notamment c'est... à Oran. Votre père, à ce moment-là, est maire de...
Mon père a été maire du petit bled dans lequel nous vivions jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et il a eu le douloureux honneur d'assister à la descente des couleurs françaises et à la montée des couleurs algériennes. Voilà, la passation de pouvoir. Et il est rentré en la maison, il pleurait. Et je n'avais jamais vu mon père pleurer. Voilà.
Et ça, comment c'est... réagissent les... J'allais dire les différentes populations à ce moment-là. Est-ce que vous sentez une réaction ou est-ce que vous sentez quelque chose de très différent? Je suppose que oui.
Alors,
et de quelle nature?
Y avait quand même... Vous savez, si les pieds noirs sont partis dans leur grande majorité comme ça, c'est parce qu'il y avait quand même de la part... Si vous voulez, ce que j'ai entendu là d'Abderrahman Farès, c'était le rêve qu'on allait rester en Algérie, que les Juifs allaient rester, etc., que bon, l'Algérie allait se reconstruire et qu'on allait continuer à tous s'aimer. Et c'est un beau rêve, et c'est un beau rêve, et c'est le rêve qu'on n'a peut-être pas tous eu, mais enfin, moi, j'aurais eu ce rêve-là. Mais la réalité, ce n'était pas ça. La réalité, il y avait quand même, des rancœurs. Des rancœurs aussi bien de la part des Arabes que des pieds noirs. Hein. Donc c'est ça qu'on a, on a senti, ça. On a senti hein, une agressivité. Alors, pas toujours, pas tout le monde non plus. Mais ça a suffisamment existé pour que ça fasse peur à des tas de pieds noirs qui sont partis parce qu'effectivement... Ils ont peut-être eu tort de partir. Peut-être qu'on, plein de gens auraient pu rester, moi, je crois.
Alors, c'est-à-dire, parce que cette question a été à plusieurs reprises sous-entendue, et, à savoir que Despinards aurait donc pu rester en Algérie, mais que, bon, il y a eu des circonstances défavorables.
Voilà.
Malgré tout, on aurait dû essayer. Mais ça voulait dire quoi, à ce moment-là?
Alors, vous savez, moi, je me sens schizophrène, là, aujourd'hui, parce que je vous parle de la fille de 15 ans, 15 ans et demi, qui a assisté à tout ça, et j'en parle X années après, parce que je ne sais pas compter de tête, mais ça fait 40 et quelques, ça, hein. Bon, voilà. Oui, largement. Donc, je trouve ça rend un peu schizophrène, parce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le fruit de la distance que j'ai pris par rapport à, que j'ai prise par rapport à tout ça et de ma réflexion. Et à 15 ans et demi, quand tout ça s'est produit, je n'étais pas du tout dans ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. J'étais dans le passionnel et dans l'affect. Mais quand même, je me rends bien compte que... Enfin, ce que je vous dis maintenant, je ne le voyais pas à ce moment-là. Je me rends bien compte qu'il y a certainement des pieds noirs qui auraient pu rester. Mais je crois qu'on a eu tellement peur parce qu'il y a eu des exactions. Hein. Il y en a eu, bien sûr, hein, de toute façon, dans les guerres. Hein. Et les gens ont tellement peur qu'ils bon, sont partis, même ceux qui auraient pu rester. Il y en a qui n'auraient pas pu rester. Il y a quand même des gens à qui on a tout pris. Ça, c'est pas un fantasme pied noir pour justifier plein de choses. C'est vrai qu'il y a des gens à qui on a tout pris. Il y a des gens, les Algériens, moi je dis les Arabes parce que c'est une histoire de peuple, hein, sont rentrés, ont pris les boutiques, ont pris les magasins et leur ont dit « partez ». Bon, ça, vous devez savoir ça, hein, voilà. Mais j'en sais aussi qui sont restés. J'en sais de mes amis qui ont de ma génération. Alors, y sont-ils toujours maintenant, là, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils y sont restés très longtemps, puisque j'ai dû avoir, il y a peut-être 7, 8 ans, 10 ans à tout casser, la confirmation qu'ils y étaient toujours. Voilà.
À quelle occasion ?
Ben, je crois que ça doit être une de mes amies d'enfance d'Algérie. Là, alors, j'ai parlé d'un certain monsieur Taïeb. Voilà. Voilà. Il avait une nièce qui s'appelait Mazaria, qui était mon amie d'enfance, avec qui j'ai passé toutes mes vacances pendant très longtemps. Voilà. Et Mazaria, je l'ai re-eue au téléphone il y a quelques années. J'ai cherché un peu le numéro, parce qu'elle est toujours à Oran, elle. Hein. Et on a parlé un peu on a parlé de plein de choses. Et je lui ai demandé, évidemment, est-ce que les Intel sont toujours là ? Elle m'a dit oui, ils sont là, et les Intel sont là. Voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont restés, qui avaient des affaires, quelques-uns sont restés.
Mais après tout, votre famille reste en Algérie jusqu'en 1974.
Ah, tout à fait, voilà.
Mais durant ces 12 années, si je ne me trompe pas, votre point de vue, en plus d'adolescente, vous êtes vraiment jeune fille.
Oui, oui, oui.
Votre point de vue va évoluer.
Sur l'Algérie.
Oui, sur l'Algérie, sur votre présence même
en Algérie. Écoutez, de toute façon, déjà, le fait qu'on y soit resté, maintenant, avec le recul, je me dis que c'est quand même assez insolite. Quand je dis ça aux gens, ils sont toujours très, très étonnés. Et moi, je dis, ben oui, puisque... Mon père continue à faire son boulot. Pour moi, c'était naturel. C'était naturel. Donc, mon père continue à faire son boulot. Le boulot qu'il faisait, les Algériens ne l'ont pas pris. Hein. Ils lui ont dit, continue à le faire parce que vous savez le faire. Je sais pas. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est que ce travail-là, les Algériens ne savaient pas le faire parce qu'il était particulièrement pointu. Donc, ils ont tout bonnement demandé à mon père de continuer à rester. Dans sa boîte qui restait française, donc c'est devenu une boîte étrangère. Hein,
boîte Mais étrangère, vous sentez voilà. bien à ce moment-là que, par exemple, lorsque Abderrahmane Farès se réfère aux accords d'Évian, que ceux-ci ne vont pas être vraiment impliqués.
Ben, moi là, quand j'étais adolescente, là, c'est pour ça que je vous dis que je suis schizophrène, hein, à ce moment-là, moi je ne sais rien, j'ai entendu tout ça. Alors, à ce moment-là, c'est quoi une adolescente de 16 ans en Algérie, de 15 ans et demi? C'est une jeune fille qui a crié Algérie française avec les copains et les copines, qui a fait des concerts de casseroles. Je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a eu les concerts là. Je les ai fait, les concerts de casseroles, et c'était extraordinairement exaltant de se battre pour une cause. Hein, donc, mais il n'y avait aucune analyse politique là-dedans. Il n'y a pas les adolescents, il n'y avait pas. Enfin, moi, j'avais aucune analyse politique, aucune distance, aucun recul. J'étais dans la passion de la cause à défendre. Mais je me rends bien compte maintenant, longtemps après, que la cause à défendre, elle était humainement défendable et humainement infiniment respectable, mais politiquement, pas du tout. Politiquement, elle n'était pas défendable du tout, cette cause. Donc, bien sûr qu'on est schizophrène, obligatoirement, hein. Alors, ce que je ressentais, moi, j'étais là, notre bled où nous étions, là, on y restait longtemps. Les ouvriers qui étaient là-bas, ils m'ont connue toute petite. Ils ont continué à être les ouvriers. La guerre est passée, c'est un peu particulier, la guerre est passée sur nous. On l'a vécu aux premières loges, parce que dans le bled, ce n'est pas la guerre des villes à partir de 1960. Dans le bled, c'est la guérilla depuis le 1er novembre 1954. Et tous les jours. Hein. En gros, c'est ça quand même. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en parler, ça je sais pas, mais voilà, en gros, c'est ça. Mais en même temps, les ouvriers qui étaient là, embauchés par mon père à partir de 1949, ils ont toujours été là, sauf un ou deux, qui sont partis à la rébellion et qui sont complètement partis dans le maquis et qui ont quitté. Hein. Sans ça, ils ont toujours été là. Et ils ont été là tout en travaillant pour leur cause, qui était la cause de l'Algérie algérienne, alors que mon père travaillait pour la cause de l'Algérie française. Mais on a tout le temps été ensemble, on ne s'est jamais quitté. J'ai des noms comme ça, Moussa, Abdelkader, qui m'ont connue petite, et puis qui m'ont connue moyenne, et puis qui m'ont connue grande, et puis qui m'ont revue quand je suis venue présenter mon fils en 69.
Vous parlez de schizophrénie, mais il y a une double schizophrénie, parce que vous êtes dans le bled. Et la guérilla commence dans le bled.
Oui,
et
puis bien sûr.
Ensuite, elle se dirige vers les villes. Mm-hmm. Donc, dès 1954,
bien sûr, on y
vous
est.
Vivez, vous connaissez, vous voyez à l'endroit où vous vivez,
oui.
L'insurrection se développer.
Vous voulez les premières anecdotes ? Très rapides ? Bon, alors, première anecdote. Il y en a eu deux qui étaient à peu près concomitantes. Un soir, un petit gamin de 8-9 ans arrive en courant. Chez nous, là, dans notre bled, à la maison, il vient frapper. Il dit « Monsieur Régis, il faut que tu viennes. Mon père s'est blessé avec sa carabine. » Le père de ce gamin était ce qu'on appelle un mokadem. Un mokadem, c'est une sommité religieuse algérienne. C'était l'ami de mon père. C'était un homme magnifique, avec son turban blanc, sa grande barbe. Il rayonnait de générosité et de bonté, cet homme-là. Et c'était l'ami de mon père. Bon. Papa prend la voiture, met le gamin dans la voiture, fonce... c'était pas loin, chez le mokadem. Il le trouve avec une décharge de chevrotine dans le ventre. Il le met dans sa voiture, il l'amène à Tlemcen, à la clinique de Tlemcen, qui était à 35 km, hein, parce qu'il n'y avait rien de plus près. Et le mokadem est mort. Mais en fait, il ne s'était pas du tout blessé avec sa chevrotine. C'est son beau-frère qui est venu frapper à sa porte, qui lui a dit « Sors, je veux te parler », et qui l'a tué. Parce qu'il était ami avec un Français. C'est ça le début de la guérilla. Hein. Et puis, il y a eu le jeune garde forestier, je crois qu'il s'appelait Auberture, si je ne me trompe. C'était un grand blond. Il me semble qu'il s'appelait Monsieur Auberture. Il était jeune, il avait une trentaine d'années. On l'a retrouvé devant sa maison dans la forêt, là, par terre, égorgé et nu. Voilà, c'était le premier Français, le premier Européen tué. Alors, c'est ça la guerre, parce qu'il y a ce qu'on appelait les Félagas. C'est comme ça que ça commence, hein. Il y avait les Félagas et puis il y avait les Français, les Arabes, les Espagnols, les Juifs, les machins, les ci, les ça. Et puis nos histoires étaient tissées étroitement.
Mais est-ce que les deux communautés, est-ce que vous vous souvenez de discussions, par exemple, sur l'avenir de l'Algérie ? Je pose une question abstraite,
oui.
Mais volontairement, oui.
Oui, alors, des discussions, moi non, je m'en souviens pas, toujours pareil, parce que j'étais adolescente et que j'étais pas du tout là-dedans. J'étais pas dans la politique, j'étais pas dans la conscience politique. J'étais juste dans le viscéral et le passionnel. Hein. Je suppose qu'il y en avait forcément. Je suppose que papa et Monsieur Taïeb, j'imagine qu'ils devaient bien de temps en temps parler de tout ça quand même. Parce que Monsieur Taïeb, quand il venait nous chercher à notre pensionnat à Oran, parce qu'on était pensionnaire à Oran, avec nos mâles et nos trousseaux, hein, les pensionnaires ont des trousseaux. Eh bien, il enlevait le linge des mâles, mais ça, on l'a su après. Il mettait les médicaments pour les rebelles, pour les Félagas, sous le linge. Il remettait nos trousseaux par-dessus. Et ce qui fait que s'il y avait des barrages et tout, comme il ramenait les enfants de M. Régis à Boileau. Donc, les barrages militaires n'ouvraient pas nos cantines pour voir si par hasard, voilà. Mais oui, c'est extraordinaire tout ça. Moi, je ne le savais pas, je l'ai su après tout ça. Hein. Donc des discussions, j'en sais rien, mais chacun de son côté œuvrait pour sa cause. Mais ils ont œuvré la main, mais en même temps la main dans la main, toujours pour le travail, pour l'amitié, pour voilà. Donc ce sont des choses fortes, ça. Ça je le savais pas à ce moment-là, évidemment. Hein.
Boualou, pardon, mm-hmm. je prononce mal. Ça se présente comment?
Boualou.
Ça se présente comment? C'est une.
Alors, Boualou, c'est un. Donc, c'était un petit douar qui s'appelait Boualou. Et à côté de ce douar, un monsieur qui était français, qui était un français de France, un métropolitain, qui était mon oncle, hein, et qui avait une grosse société à Paris, a décidé d'investir en Algérie. Il a demandé à mon père de mettre ça en œuvre. Voilà. Donc, ça se présente comme un grand parc dont une partie est dévolue plutôt à la résidence, à l'habitation, et l'autre partie à tout ce qui est technique, puisque pour filtrer l'eau et la nettoyer, l'épurer et tout, il faut des grands bassins qu'on appelle des bassins d'épuration, des bassins de machin,
de décantation.
Voilà. Et c'est immense, hein, il y a des tas de bassins, je ne vous rappelle pas le nombre de bassins, mais il y en a énormément. Et donc on vit là-dedans, c'est entouré d'une clôture, hein, d'une grille, comme un parc, et il y a un grand portail pour entrer, qui est en fer forgé, à claire-voie, et il y a des routes, il y a des chemins, il y a des pompes à essence, parce qu'on est dans le bled, il faut bien remplir nos voitures, enfin celles de mon père et du personnel. Et il y a le garage, et puis enfin voilà, il y a tout. Et on vit là, notre maison est une grande maison, très belle, construite dans le style mauresque, parce que l'oncle qui a investi en Algérie est également architecte. Donc il a dessiné les plans, etc. Et on vit là, à partir de 1900, quand c'est construit en 51-52, ça doit être terminé. Hein, mmh. Parce que jusque-là, on a vécu dans le village voisin, le temps que ça soit tout terminé. Et puis on est venu y vivre, et je réalise maintenant que somme toute, on a vécu là que 10 ans à peu près. Hein, et ça me paraît une vie. Parce qu'en 62, c'est l'indépendance. Bon, on y est resté encore quelques années, mais en 63, mon père est venu s'installer à Oran parce que c'était plus simple d'être directement à Oran. Donc, j'ai l'impression que c'est toute une vie. Et en même temps, c'est jamais que 10 ans, 10, 12 ans.
Oui, mais ce sont vos voilà. 10 années les voilà. plus précieuses.
Elles sont fondamentales, ces années-là. Hein. Parce que moi, j'étais pensionnaire au lycée d'Oran. Et voilà. Mais c'est ce sont des années fondatrices.
Mais avant d'aller au lycée, vous êtes à l'école communale.
Oui, à l'école communale. Alors, au Douar, il y avait une école communale. On a dû y être un an ou deux, je ne saurais pas vous dire exactement. Il y avait un instituteur qui s'appelle Monsieur Vichat. Monsieur Vichat, jeune homme, pas pied noir du tout. Je ne suis pas sûre qu'il soit pied noir, hein, je ne mettrai pas ma main au feu. Monsieur Vichat a une classe unique sur la petite colline au-dessus de notre, là où nous habitons, là sur la colline, là près du Douar, il y a une école, classe unique. On est peut-être 40 dans cette classe, hein, je ne saurais pas vous dire, qu'est-ce qu'il y a, peut-être un tiers de Français, oui, hein, et le reste d'Algériens. Je vois un peu les choses comme ça, moi. C'est-à-dire, Français, ce sont les gens qui travaillent sur ce site, mais il y a très peu de Français. Il y a nous. Il y a le comptable qui a peut-être des enfants, il y a le concierge, il y a les quelques personnes françaises qui travaillent là, le technicien de je ne sais pas quoi, et puis à part ça, il y a le reste des employés qui sont algériens, ils ont des enfants. Donc on est tous là du CP, les maternelles ça n'existait pas en ce temps-là, surtout pas en Algérie, du CP ou à ce qu'on appelait le certificat d'études. Et voilà, on est tous réunis et M. Vichat gère tous ces différents niveaux. Ça, c'est un an ou deux. Après, on va dans le village voisin qui est à Turenne. Et ça, je me le rappelle parce que M. Taïeb, nous descendait le matin à Turenne dans la camionnette Citroën. Hein, et le soir, il revenait nous chercher. À midi, on mangeait ou chez l'habitant où il n'y avait pas de cantine en ce temps-là. Hein. Voilà, ça, c'est jusqu'en 50... c'est jusqu'à ce que j'ai 9 ans. 9 ans, donc 46, jusqu'en 55.
Donc à ce moment-là, débute la guérilla.
Alors, quand la guérilla débute en 54, on est encore là-bas. Hein, Et un an après, mon père nous envoie passer un an à Alger, chez nos grands-parents, dans la maison, le berceau de la famille. Hein. Et puis, l'année d'après, à Oran, parce que c'était trop dangereux dans le bled.
Mais ce que vous voyez de l'insurrection, c'est quoi? C'est autour
L'insurrection, moi, j'en vois des choses... je la vois pas, l'insurrection, je la vis. Je la vis, c'est-à-dire que on est mitraillé, on est bombardé, parce que dans ma chambre, il y avait un trou d'obus, un gros trou d'obus dans le mur de la chambre. On a des sacs de sable aux fenêtres, vous avez entendu parler ça, je suppose. Hein. Donc les fenêtres, sacs de sable jusqu'en haut, hein, parce que c'est très dangereux, parce que sur les pitons, il y a l'effet de Laga.
Autour du Douar, donc.
Oui, autour du Douar, autour de notre parc de Boirlou, là où il y a la station, etc. Il y a trois pitons, donc ils sont là, c'est des collines, des pitons, ils sont dessus. Il y a l'armée française qui est arrivée pour nous protéger. Donc ça se bat. Il y a les voisins, il y a un fermier qui habite pas très loin. De temps en temps, ils viennent... moi, j'ai ces souvenirs-là, j'étais gamine, hein. On dort tête bêche dans les lits parce qu'il y a M. Jolas qui est venu avec ses quatre enfants, ou il y a M. je ne sais plus qui est venu avec ses deux enfants, M. et Mme. Hein. Alors on met des matelas dans les couloirs, dans la maison, on dort tête bêche dans les lits. Moi j'avais mon lit, j'avais une chambre avec ma sœur, donc on dort à quatre dans la chambre en dormant tête bêche. Donc je ne l'ai pas vu, je l'ai vécu, c'est pas voir, c'est être dedans. C'est les casemates construites sur le toit des maisons, avec les militaires français dans les casemates pour qu'ils soient un peu en hauteur, vous voyez. C'est la conduite. Alors, cette eau nourricière que les Oranais ont trouvée très mauvaise pendant un certain temps parce qu'ils étaient habitués à avoir de l'eau salée. Donc, la première fois, ils ont bu de l'eau douce, ils ont trouvé ça infect, ils trouvaient que leur café était infect. Oui. Donc, cette conduite qui, du barrage de Beni Badel à Oran, amène cette eau douce. Donc, ce sont des tuyaux gigantesques, énormes, vous savez, comme les oléoducs, comme les... Quand la guerre a été bien installée, les effets de la gaffe faisaient sauter la conduite. Alors, on entendait une sirène se déclencher, mon père sortait en courant de la maison. Et j'ai des souvenirs de certains soirs où, quand la conduite sonnait, mon père sortait et sautait. Mon père sortait et comme on était canardés, il partait presque à quatre pattes pour aller. Bon, parce qu'il fallait qu'il aille arrêter la sirène. Et puis, il fallait qu'il aille téléphoner à Oran pour expliquer que la conduite avait sauté. À ce moment-là, il fallait faire une recherche pour trouver l'endroit où la conduite avait sauté, pour la faire réparer. Donc, elle était réparée au bout de 3 ou 4 jours. Voilà. Les Oranais avaient de nouveau de l'eau potable. Et éventuellement, le soir même, elle ressautait. Et papa recommençait, et la sirène ressonnait, et ainsi de suite. Voilà.
Ces bombardements étaient aveugles, touchaient l'ensemble de la population, ou plus particulièrement les Français?
Ces bombardements, ceux dont je vous parle précisément, étaient sur nous, puisque nous, c'était la station du Boirlou, là, hein, où on habitait. Donc, comme il y avait des militaires qui étaient cantonnés là, hein, on avait construit des casemates sur le toit des maisons, étaient des maisons à toit plat, en terrasse, hein, mauresque. Donc, il y avait des casemates construites dessus. Donc, l'effet de la gaffe tirait là sur eux. C'est pas forcément qu'ils nous voulaient du mal à nous en personne, mais il y avait les militaires qui étaient là. Donc, ça se battait. Alors, les militaires sortaient en opération. Ils sortaient, ils partaient en opération la nuit parce qu'il y avait une cache ou parce qu'il y avait une attaque ou parce qu'il y avait... Enfin, moi, vous savez, j'ai entendu tout ça. Mais je l'ai vécu. On a vécu ça. On a été dedans. Les balles, on les a entendues. Les trous dans le mur, on les a vus. Les matelas, les sacs de sable, on les a eus. Les chemins de boucher par les sacs de sable, on a eu tout ça.
En 62, ça cesse.
En 62, ça cesse, puisque la guerre se termine. Voilà. Donc ça s'arrête.
Et donc on revient à Abderrahmane Farès. Mm-hmm. Il y a un espoir possible à ce moment-là.
Si vous voulez, moi, je ne pensais pas à tout ça à ce moment-là, mais je vous en parle. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'en ai plus que schizophrène. Je me dis qu'effectivement, avec le recul, je me dis, mais est-ce qu'on aurait peut-être que les pieds noirs... Mais des pieds noirs auraient eu envie de rester, non pas pour des... Parce que les pieds noirs, les trois quarts des pieds noirs étaient Algérie française, bien sûr. Hein, c'était un truc purement affectif. Donc, on était forcément Algérie française. Hein, on ne pouvait pas concevoir Algérie algérienne en restant, etc. Mais en même temps, je pense que S'il n'y avait pas eu, bon, il y a eu ces charniers d'Oran là, qui ont été découverts, des gens qui avaient disparu, qu'on a, bon, voilà, ça vous, tout le monde connaît cette histoire.
Des milliers de personnes, oui.
Voilà, voilà. Hein. Donc si, parce que le problème de ces guerres-là qui sont, les problèmes de ces guerres-là, c'est qu'elles sont aveugles, c'est que les Français tuent les Arabes tuent les Français, parce qu'après il y a tellement de rancœur qu'il n'y a plus de raisonnement. Il n'y a plus de distance. Donc, quand on vous tue votre père, et ben, le lendemain, vous sortez avec un fusil et vous tuez le premier arabe qui passe dans la rue, et ainsi de suite, quoi. Hein, là, je schématise, mais grosso modo, c'est ça. Donc, c'est arrivé à une telle exacerbation des sentiments, mais des très mauvais sentiments, pas des sentiments qui font du bien, des sentiments qui font du mal, que ça rendait les choses impossibles. Sauf quelques cas vraiment particuliers. Mais je me dis maintenant avec le recul que si on n'avait pas été dans cette exacerbation des sentiments, certainement on aurait pu, bien sûr qu'on aurait pu vivre ensemble.
On a le sentiment en écoutant Abderrahmane Farah, j'en reste là, que derrière cette rhétorique il y a beaucoup de sincérité.
Mais il y a une
utopie en même temps.
Voilà, tout à fait, c'est ce que j'ai écouté très attentivement ce qu'il a dit. Et je crois que je vous l'ai dit hors micro, mais quel beau rêve, hein. Mais bien sûr qu'il y a une utopie. Mais si on ne croit pas un peu aux utopies, on ne fait rien dans la vie non plus. Mais c'est vrai que cette utopie-là...
La délégation française est partie il y a 5 minutes. Elle a quitté définitivement Évian il y a 5 minutes par la route. Je l'ai vu passer en voiture devant notre studio. Et on peut penser qu'actuellement, M. Jox est sur la route qui doit le conduire à Genève ou à Sous-Bretagne. Du Glam va le ramener à Paris. À Paris, où il prendra connaissance, comme tout le monde, du discours du général de Gaulle.
Eh bien, merci Claude-Paul Pajard. Et rendez-vous sur nos antennes dans un quart d'heure à 19h30. Donc, ce 18 mars 1962 devient la date de la fin des combats entre la France et le FLN. Des combats qui duraient depuis plus de 7 ans, 7 ans, 4 mois, 18 jours. Des combats qui ont fait des milliers de morts qui n'ont épargné ni les femmes ni les enfants. Et je crois vraiment qu'il est difficile de canaliser en quelques mots l'émotion qui vous étreint quand on pense à ces 7 années, à cette guerre, à ses victimes, à ses conséquences politiques, au poids dont elle a pesé sur la vie de notre pays et sur son avenir, aux heurts qu'elle a provoquées, non seulement entre les communautés d'Européens et de musulmans, mais aussi aux déchirements qui ont eu lieu au sein même de ces communautés, entre frères ennemis, entre musulmans et entre Européens. Donc, une page est tournée, le virage est pris vers la paix, une paix encore bien fragile, mais qui doit permettre de construire l'avenir à partir d'une véritable coopération entre la France et l'Algérie nouvelle. Pourquoi cette conviction ? Parce qu'il y a eu trop de choses déjà bâties ensemble, trop de choses pour que cette coopération demain ne deviennent pas simplement, progressivement, efficaces, fructueuses et même amicales. Et voyez-vous, ce soir, je pense surtout aux paroles, aux souhaits, à la conception de l'avenir qui étaient ceux de Lyautey et aussi d'un autre grand spécialiste de l'Afrique du Nord, Émile Félix Gautier, qui aimait tant l'Algérie et qui voyait ainsi les objectifs de la colonisation. Pour lui, pour Émile Félix Gautier, toute colonisation réussie tend à créer des conditions qui rendent sa continuation superflue et impossible. C'en est en quelque sorte la justification morale. Pour accomplir ce passage difficile des combats à la coopération, la France, vous le savez, avait choisi la politique d'autodétermination, politique approuvée par le Parlement à une très large majorité, politique ratifiée massivement par le peuple français lors du référendum du 8 janvier 1961.
Vous êtes retourné en Algérie.
Oui, alors j'y suis retournée et encore retournée, parce que la navette entre la France et l'Algérie, la traversée en avion. Non, une fois en bateau quand même. Je l'ai faite entre 62 et 74 tout le temps. Je l'ai faite en 62 parce que je suis rentrée à Marseille, puis au bout d'un an je suis repartie en Algérie continuer mes études, dès que le lycée a marché. Je l'ai faite en 67, après que j'ai eu le bac, etc. Je suis revenue à Marseille pour mes études, mais... Je repartais en vacances à Noël et l'été, puisque mes parents étaient toujours là-bas. Je l'ai faite en 69 avec un très beau ventre rond. J'avais 22 ans et demi, j'avais un très joli ventre très rond. Et il y avait un certain petit Jérôme dedans. Voilà. Et je me suis dit que ce petit Jérôme, il fallait qu'il naisse sur la terre de ses parents. Et donc, on est reparti à Oran avec son père, qui était d'Oran, pied noir d'Oran que j'ai connu à Marseille, mais pied noir d'Oran. Et on est allé faire naître cet enfant-là sur la terre de ses aïeux, voilà, à Oran. Et puis, on a continué à y retourner tant que mes parents y ont été jusqu'en 1974 avec mon mari voilà, et Jérôme Petit. Bon, après, j'ai divorcé, je suis retournée avec mon fils. Et j'ai cessé d'y aller en 1974 quand mes parents ont quitté l'Algérie. Voilà. Mais j'ai passé mon temps à y retourner en Algérie.
Mais depuis, vous n'êtes pas retournée avec Jérôme?
Alors, moi, depuis, j'y suis pas.
Oui.
Jérôme est retourné il y a un an avec sa chérie, qui s'appelle Julie. Et Julie est normande, elle n'est pas pied-noir du tout. Et Julie lui a proposé, ils avaient 8 jours de vacances à prendre. Ils travaillent beaucoup, tous les deux, ils ont beaucoup de mal à quitter leur travail. Le seul moyen de le quitter, c'est de partir de Marseille. Donc, Julie a proposé à Jérôme d'aller à Oran. Ils y sont allés. Donc, il s'est passé toutes sortes de choses extraordinaires. Jérôme est allé voir la clinique, puisqu'il avait les adresses, il avait tout. Hein. Il est arrivé, il a dit qu'il était né dans cette clinique. Et on lui a ouvert la clinique immédiatement. Et on lui a fait visiter la clinique, on lui a fait visiter la maternité qui était fermée depuis 15 ans, mais qui était dans l'état où elle était quand je suis allée y mettre mon fils au monde. Hein. Donc j'ai une photo de mon fils sur un lit de maternité, c'est peut-être le lit je ne sais pas.
Oui.
Hein, voilà. Et puis il est retourné dans le bled, là, à Boireloup, hein, ce lieu-là. Il a dit qui il était, il s'est présenté en disant qu'il était le fils de ce monsieur. Hein. Et là, ben, on lui a raconté la saga de son grand-père et de sa grand-mère depuis 1952. Et comme s'il y avait une transmission orale de génération en génération de l'histoire de son grand-père et de sa grand-mère à Boireloup. Et puis, on lui a donné une rose du rosier planté par son grand-père en 1952. Et il m'a rapporté cette rose.
La rose de Boileau.
La rose de Boileau, voilà. Et cette rose est dans un livre.
On finit sur une petite note, c'est que Jérôme, vous êtes grand-mère.
Je suis grand-mère depuis 2 mois et demi. Je suis grand-mère d'un petit Anton, qui est le fils de Jérôme. Voilà. Voilà.
Michel Régis, je vous remercie.
Je vous en prie.
C'était La Traversée. Une série d'émissions de Lucien Bartholinat et Gilbert Racinat. Prochain rendez-vous sur les 3-8 de la Grenouille, le dimanche 7 janvier 2007, à 20h. Bonsoir.